Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
On va se reparler de tout ce qui se passe autour des gyms avec notre chroniqueuse Lily Boisvert. Salut Lily.
Salut Geneviève.
Bon, petit rappel, là, il y a une coalition formée par plus de 250 gyms, des centres de yoga, des salles de danse, des écoles de danse, pardon, des centres d'arts martiaux qui veulent défier un peu les règles sanitaires du gouvernement et rouvrir leurs portes dans deux jours, même si c'est interdit. On le sait que le confinement s'est prolongé jusqu'au 23 novembre. Mais tantôt, François Legault, je l'écoutais pendant... il était questionné par les journalistes et il est même allé jusqu'à dire que demain, il y aura un arrêté ministériel pour imposer des amendes aux proprios et aux clients qui seraient tentés de désobéir. Et puis ce qui est au cœur de tout ça, puis tu sais, moi, c'est un sujet dont je parle quand même depuis assez longtemps parce que la question de la santé mentale est importante et c'est ce qui est avancé par les gyms. La clientèle qui dépend de leur réouverture au niveau de leur santé mentale, est-ce qu'on est en train d'exagérer? Est-ce qu'on est en train de minimiser les risques de transmission dans les gyms? Tu sais, ça soulève toutes sortes de questions, Lily, puis aujourd'hui, on va essayer de se démêler un peu dans tout ça. Est-ce que les gyms pourraient être considérés comme un service essentiel? Moi, au début, je disais oui, mais là, on dirait que je suis plus tant sûre.
T'es plus tant sûre que ça devrait être dans la liste?
Mais je sais plus. Je sais plus parce que d'un côté, j'ai... Ouais.
Ouais, on hésite. Hein? Moi aussi, je sais pas trop c'est quoi ma position parce que moi, je t'avoue, j'aime ça aller au gym. J'y vais de manière assidue depuis comme une dizaine d'années. Quand ça allait fermer le premier confinement, bon, je me suis résignée, je suis allée faire de l'activité physique dehors. Mais là, avec l'hiver qui s'en vient, je me demande qu'est-ce que je vais faire. Puis je pense qu'il y a une bonne partie de la population aussi qui se pose cette question-là. Et c'est clairement à ces gens-là, dont moi, je pense, dont parlent les propriétaires de gym en ce moment, qui se disent, ben, il y a une demande, les gens disent que ça fait partie de la santé. Et quand on écoute leurs arguments, ça fait quand même du sens. Eux, ils disent, le produit qu'on vend, c'est pas n'importe quel type de produit, on vend de la santé. Et il y a même des gens qui plaident que l'activité physique, ce serait encore plus important dans un contexte d'épidémie d'origine virale comme la COVID-19, parce que faire du sport, ça optimise la fonction immunitaire du corps.
Mais ça, c'est-tu vrai? Ça, c'est-tu vrai? C'est-tu prouvé scientifiquement?
Ce serait scientifiquement prouvé, okay. Oui. Et le sport, ça réduit aussi le stress et la fatigue.
Ouais.
Or, quand on est stressé et fatigué, on devient plus vulnérable aux attaques pathogènes. Donc, c'est quand même un argument médical assez massu. Eux, ils disent aussi comment ça se fait qu'on garde les centres d'achat ouverts, comment ça se fait que la SAQ, la SQDC sont dans la liste des services essentiels et pas nous. Donc, est-ce que les gyms sont un service essentiel? Eux, ils disent qu'ils permettent de prévenir carrément des dépressions et des suicides. Ils disent que c'est un cri d'alarme qu'ils lancent au gouvernement pour que les gyms soient placés dans la liste. C'est sûr que si on est cynique et qu'on regarde tout ça, on peut se dire que, bon, la réouverture pour eux, c'est aussi une question financière. Mais eux, ils plaident vraiment qu'ils répondent à l'intérêt de leur clientèle. Ils disent qu'ils reçoivent des témoignages de détresse psychologique. Et il y en a qui disent qu'il faudrait un peu les voir comme les auxiliaires de la santé publique. Donc, on le sait, c'est connu, le sport, ça a des effets positifs sur la santé mentale, donc physique et mentale, et c'est même recommandé comme une approche thérapeutique contre l'anxiété et la dépression. Il y a des spécialistes qui vont prescrire même de faire du sport à leurs patients avant de leur prescrire des médicaments contre l'anxiété et la dépression.
Si j'ai envie de te dire, puis Dieu sait que j'aime aller au gym, mais que du sport, tu peux en faire en dehors d'une salle de gym, que tu peux courir, que tu peux faire toutes sortes de choses, t'acheter. Bon, là, c'est sûr qu'il y a une pénurie de poids et haltères, là. Mais, tu sais, l'argument économique, on peut pas s'en sauver. Ils ont tout intérêt.
Il y a une pénurie de beaucoup de choses, même les elliptiques. Moi, je m'agissais.
Oui.
J'essayais de voir, puis il y a aussi une pénurie d'elliptiques. Donc, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui se disent, justement, qu'ils vont faire des petits gyms à la maison, là.
Bon, puis, tu sais, les propriétaires de gym non plus, avancent des arguments. Ce sont pas des experts en santé publique. Puis, d'ailleurs, ils ont bien mal paru hier, parce qu'on apprenait, c'est Félix Séguin qui a sorti ça, un de nos journalistes, qu'un des instigateurs de ce mouvement-là, ben, ce serait un Hells Angel, là.
Oui, Christian.
Ça entretient les préjugés quand même sur eux, ouais.
C'est ça, le Conseil de relations publiques, c'est pas idéal. Et puis, deux des propriétaires de gym qui sont à l'origine de cette initiative-là, dont M. Ménard, ont défendu des positions sur les réseaux sociaux qui tendaient à minimiser les effets de la COVID-19 récemment. M. Ménard qui invitait ses abonnés à signer une pétition contre le port obligatoire du masque.
Donc, c'est
que ça n'aide pas nécessairement la crédibilité de la coalition. Mais eux, ils disent ce qui est important, c'est pas l'homme, c'est les arguments.
C'est lui qui est en avant, franchement.
Oui, mais peut-être que justement qu'il y en a d'autres qui vont prendre la place.
On le souhaite.
Eux, ce qu'ils disent, c'est que les gyms ne sont pas un foyer d'explosion. Par contre, ce que nous répondent les experts, c'est que ça doit quand même être considéré comme un lieu plus à risque que, par exemple, des centres d'achat à cause des gouttelettes qui sont expulsées quand on respire. On le sait, c'est comme ça que se transmettent beaucoup la COVID. Et donc, c'est sûr que quand on s'entraîne, on respire plus fort, donc on propulserait plus de gouttelettes et plus loin aussi, comme quand on chante au karaoké. Ah,
okay. Au spinning, Lily, le plafond des gouttes, littéralement, je m'excuse, mais ouais.
Le spinning, c'est ça, il y a eu un centre de spinning qui est à l'origine de 80 cas de contamination à la COVID à Hamilton, en Ontario. Donc, c'est pas tout à fait vrai que c'est pas un foyer de contamination, ça peut être le cas. Le spinning, c'est sûr que, tu le sais, t'as des gens qui sont sur des vélos en rangée et devant eux, il y a un professeur qui leur après pour les motiver. Donc, le professeur projette des gouttelettes, les cyclistes projettent des gouttelettes et il y a des experts aussi qui disent que même le mouvement des vélos risque d'augmenter la propagation des gouttelettes à cause de l'effet d'aérosol. Ça les propulserait aussi davantage dans les airs. Donc, le spinning, ça semble être une des activités les plus dangereuses.
Moi, c'est dans mon garage que ça se passe en ce moment, le spinning. Je suis en sécurité.
Voilà.
Mais là, ma question pour toi, ça serait, parce que là, les gyms sont fermés, puis on s'inquiète de la santé mentale, mais de la santé physique des gens aussi. Là, au début de la pandémie, on voyait vraiment beaucoup de coureurs un peu partout. Là, il y avait une espèce de rage de course collective. Puis je me demande si ça a duré. Puis je me demande, est-ce que les gens ont diminué leur activité physique pendant le confinement ou est-ce qu'ils l'ont au contraire augmenté?
Bien, ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu une récente étude qui s'est penchée sur le premier confinement où on a sondé les Canadiens. Et ce qui s'est avéré, c'est que les Canadiens qui étaient déjà inactifs avant la pandémie sont devenus encore plus inactifs pendant le confinement. 40% des inactifs ont diminué leur niveau d'activité physique, alors que 40% des sportifs en ont profité pour devenir encore plus sportif. Donc, ça devait être ceux-là qu'on a vu pour les trottoirs et dans les parcs faire du jogging. Mais les gens, c'est ça qui n'étaient pas trop portés sur le sport, c'est ça que là, arrive la pandémie, arrive le confinement, la fermeture des gyms, ben, ça devient un peu une excuse pour rester encore plus assis sur le divan. Il y a aussi l'effet des gens qui n'étaient pas super actifs, mais disons qu'il y avait quand même peut-être une heure de cours de danse, par exemple, par semaine, ou une heure de yoga. Et là, comme c'est fermé encore une fois, là, ils renoncent à ça et deviennent complètement sédentaires. Et il y a l'élément du télétravail aussi, parce que c'est ça qu'il y a plein de gens qui se rendaient au travail en transport en commun. Et ça impliquait aussi d'y aller en partie à pied. Mm-hmm. Et là, avec le télétravail, ben tout ça saute et même le petit moment d'activité physique quotidienne, ça disparaît complètement. Il faut savoir que même avant la pandémie, on était quand même déjà mal en point au niveau de l'activité physique. C'est seulement un adulte canadien sur 5 qui atteignait le niveau d'activité physique recommandé hebdomadaire, qui est de 150 minutes. C'est ça qu'on est censé faire par semaine, 150 minutes d'activité physique.
L'inertie l'emporte sur l'action, bien souvent. Moi, c'est ce que je reprends. Tu sais, puis ce que je déplore un peu là-dedans, puis il nous reste seulement une minute, Lily, là, c'est que, tu sais, en faisant pas de sport, on déplace le problème de santé publique puis les coûts à plus tard. Tu sais, les gens qui font pas d'exercice, est-ce qu'ils vont avoir plus de problèmes de santé dans le futur?
Oui, c'est ça que c'est un risque, notamment que les propriétaires de gym vont avancer, que l'activité physique à court terme, on en ressent les effets, mais à long terme aussi, puis qu'il y a peut-être des gens qui avaient commencé à prendre des meilleures habitudes de vie dans les dernières années, et là, ça va les faire reculer. Est-ce qu'après la pandémie, les gens vont retrouver la motivation qu'ils avaient pour faire l'activité physique? C'est pas certain. Donc, il y a plusieurs gyms qui ont réaffirmé qu'eux, ils entendaient ouvrir leurs portes jeudi, même si Legault dit qu'il va y avoir des amendes. Il y a Dan Marino, notamment, qui est un des initiateurs de la coalition, qui dit que non seulement il va payer les amendes qu'il va recevoir, que c'est très peu significatif quand il pense à toutes les pertes financières qu'il y a eu de toute façon. Ouais. Il dit que lui, il est même prêt à payer les amendes que ses clients vont recevoir. Et il dit que c'est une question de morale et que de toute façon, il a de très bons avocats.
Lily, je te fais réagir à chaud. On a un verdict pour Éric Lapointe. Tu sais qu'aujourd'hui, ça se passait là, s'il allait avoir droit à l'absolution dont il était question. Là, c'était une proposition commune entre la Couronne et la Défense. Donc, il a eu droit à l'absolution inconditionnelle avec une probation de 1 an.
D'accord. Ça, c'est en lien avec les accusations
de violence envers une femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dossier criminel. C'est ça que ça veut dire.
Écoute, je ne suis pas si étonnée, malheureusement, je t'avoue.
Est-ce que tu trouves que ça envoie un bon message aux victimes de violence?
C'est sûr que non. C'est sûr qu'après ça, comme, en matière de violence conjugale, en matière d'agression sexuelle, à chaque fois, je pense qu'il y a ce genre de jugement-là qui est émis. Ça décourage les victimes de même se tourner vers la justice à la base en disant que c'est peut-être pas si utile.
C'est drôle parce que...
Peut-être qu'on médiatise pas assez les autres fois où ça se passe bien, là, mais c'est ça que surtout quand c'est une personnalité connue comme Éric Lapointe, ça se propage comme nouvelle pas mal. Hein.
Merci Lily, on va te retrouver mardi prochain. Puis c'est drôle, j'en parlais tantôt avec la juge Gibault advenant le fait qu'on en arrive là, qu'on ait cette absolution inconditionnelle là, avec une probation d'un an dans le cas d'Éric Lapointe. D'un côté, on envoie un message fort au niveau de la justice que la violence conjugale, on prend ça au sérieux. Les juges se font de plus en plus vocaux par rapport à ces causes-là aussi, vont y aller de peines qui sont considérables, vont dire que c'est inacceptable et que la justice doit prendre position. On parle même, il y a un comité transpartisan en ce moment là qui a été formé pour justement s'occuper de ces questions-là, comment mieux gérer ça dans notre système de justice. Il est même question peut-être d'un tribunal spécial pour les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, la violence conjugale aussi. Fait que d'un côté, on a tout ça. Puis de l'autre bord, on a cette absolution inconditionnelle aujourd'hui. Puis quand t'es une victime puis que tu vois ça, c'est pas tellement encourageant, mettons.